Morning Edition from NPR News.
Merci Tim Sandinberghausen.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, c'est au Kazakhstan que nous allons, où la situation dégénère. Depuis cet après-midi, la police a tiré sur la foule. Il y a des dizaines de morts, des centaines d'arrestations aussi, de blessés évidemment, morts côté police également. C'est ce que dit le pouvoir, le Kazakhstan, qui a déjà appelé les Russes au secours. Ils sont là et nous allons comprendre ensemble ce qui se passe, où sont les enjeux, surtout de ce chaos en cours. Le bruit du monde ce soir est à Tombouctou, au Mali, où l'on apprend à préserver, à conserver les manuscrits centenaires de la ville qui ont été partiellement détruits par les djihadistes. Il en reste beaucoup et c'est un trésor inestimable. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logénie a trouvé une pénurie de frites au Kenya, des sorcières graciées en Écosse et une maison de retraite LGBT en Espagne. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. L'ensemble des commissaires européens est en goguette à Paris aujourd'hui pour ouvrir la présidence française, un grand barnum. Vous verrez comment nos confrères notamment nous voient, nous la France. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four. Et un an après l'affaire du Capitole, comment les républicains sont devenus plus trumpistes que Trump lui-même. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Sacha Koulaïva.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes experte de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale. Vous enseignez également à Sciences Po. Il faut nous guider, Sacha Koulaïva, dans ce Kazakhstan, pays qui semble en pleine explosion, un pays dont on ignore tout en fait. D'abord, est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe au moment où on se parle? Je le disais, on parle de dizaines de morts. C'est même la police qui communique en parlant également de son propre camp. À quel degré d'explosion et de chaos sommes-nous? Est-ce que vous le savez?
Je pense qu'on peut juste être sûr qu'effectivement le niveau de chaos est assez impressionnant. C'est quasiment tout le pays qui s'est embrasé depuis quelques jours. Et la situation est d'autant plus complexe que l'Internet est coupé la plupart du temps. De temps à l'autre, on a des petites flashs, mais globalement, c'est très compliqué de joindre les gens sur place uniquement par téléphone. Et le pays est fermé depuis quelques temps pour toutes les personnes étrangères, depuis justement que l'Organisation de traité de sécurité collective a décidé d'y envoyer les troupes de plusieurs
Russes.
Pays.
Et pas seulement, mais effectivement, en grande partie, ouais.
Oui, tout à fait.
On sait qu'on a tiré à balles réelles dans la foule. Ça, c'était l'info de ces dernières heures. Est-ce qu'on est étonné de cette réponse policière? J'imagine que la réponse est dans la question, mais tout de même, on a donc tiré à balles réelles.
Il y a des émeutes assez importantes qui se passent. Après, c'est très compliqué de dire exactement qui a déclenché les émeutes proprement dit, parce que jusqu'ici, il y avait les manifestations assez pacifiques qui ont commencé il y a quelques jours avec des revendications très, très sociales et économiques qui ont viré après dans les revendications politiques. On peut en parler après. Et petit à petit, ça s'est embrasé. Il y a des bâtiments administratifs qui ont été pris. L'aéroport a été pris également par les manifestants. Et la situation est très différente selon les régions ouest où tout a commencé. Almaty, la ville où la rébellion, je dirais presque, a viré dans une revendication d'une manifestation extrêmement politique, et d'autres régions où la situation est encore tout autre. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a une partie des manifestants. Est-ce qu'il y avait une partie de provocation ou pas? Ça, on le saura plus tard. Mais il y avait une partie des protestateurs qui s'est saisie des armes et a commencé à attaquer des représentants de l'ordre, y compris ceux qui essayaient d'empêcher l'accès à des bâtiments administratifs, l'aéroport, etc. Donc, on sait qu'à ce moment-là, il y avait déjà des blessés et les affrontements, bien avant l'organisation des troupes. Et l'arrivée des troupes étrangères. On se parle maintenant, mais là, on a uniquement les chiffres de la police kazakh de, effectivement, plus de 2000 arrestations, de 18 personnes mortes de côté des forces de l'ordre et des douzaines, d'après les manifestants, tués à balles réelles parmi les manifestants.
Alors, Sacha Koulaïva, vous l'avez un peu évoqué, les premières manifestations, le début, démarrent sur le prix du gaz, comme on le voit d'ailleurs souvent en ce moment, un prix du gaz qui a été finalement plafonné, mais trop tard. D'où vient cette colère au démarrage? Est-ce que vous savez comment elle démarre? Est-ce que précisément, jusque-là, elle était étouffée et ne demandait qu'à exploser? C'est ce qui s'est passé.
Je pense qu'effectivement, il faut voir les choses de deux côtés. D'une part, il y avait les revendications liées au prix de gaz très, très précises et très précisément un jour, donc il y a 4 jours, le prix a doublé exactement et a viré exactement au double de son prix d'avant, soi-disant à cause des revendications de marché qui maintenant est plus près de la réalité. Mais en réalité, il faut rappeler que Nazarbayev, le président qui est devenu président en 91, donc 1991, et qui a resté au pouvoir depuis 28 ans, il a passé il y a 2 ans officiellement la présidence à l'homme choisi par lui-même, Tokayev, le président actuel, et en se donnant à lui le statut à vie de chef de conseil de sécurité. En réalité, ces 2 dernières années, en étant chef de conseil de sécurité, Nazarbayev continuait à être le chef, le véritable chef du pays, avec la main de fer, en étouffant toutes les protestations avec les prisonniers politiques, avec les manifestations très sévèrement réprimées et les opposants, soit en exil, soit en prison, le plupart du temps. Donc, dans le cadre de ce régime extrêmement fatigant pour le peuple, parce que ça fait 30 ans qu'il est en place, c'est le vétéran en Europe de l'Est, avec l'absence totale de perspective de changement de pouvoir, d'un côté, et des manifestations qui s'éclataient depuis 2 ans maintenant, de plus en plus partout, et surtout à l'ouest des pays où il y a justement tous les ressources naturelles du pays, qui est très riche, mais avec une énorme différence entre la toute petite élite qui est absolument incroyablement riche et la majorité du pays qui est autant extrêmement pauvre de l'autre côté. Donc effectivement, il y avait la tension étouffée, il y avait l'absence de dialogue, il y avait l'absence d'écoute et les violations de droits humains absolument flagrants tout au long de toutes ces années, et particulièrement ces 2 dernières années. Et en fait, ce changement de prix de gaz a explosé, je pense, la situation qui était déjà prête à exploser.
Nazarbayev, dont vous parlez, qui a effectivement dirigé le pays dès l'indépendance en 91 et qui n'est parti il y a 2 ans, effectivement, comme vous nous l'avez expliqué, que pour placer une forme de marionnette à sa place. Certaines de ses statues ont été déboulonnées par les manifestants dès le début. Et Tokayev a annoncé hier un remaniement de tout son gouvernement et aussi le remplacement de Nazarbayev. D'abord, est-ce que c'est réel? Et quelle portée, quand même, cette décision peut-elle avoir?
En tout cas, c'est une portée énorme. Quoi qu'il en soit, c'est la fin d'une ère. Le fait que Tokayev, dans un espèce de coup d'État qui n'est pas un, a réussi de couper Nazarbayev de gouvernance du pays, et qui a effectivement tout de suite a été traduit par les statues abattues et par une explosion de peuple, c'est là que aussi la rébellion, si on peut l'appeler ainsi, a pris une autre mesure parce que les gens ont senti cette fin d'air qui pour eux n'était pas atteignable depuis des années, depuis 30 ans. Donc effectivement, ça a redonné toute une autre dynamique à des protestations. Après, Tokayev lui-même était la personne quand même qui depuis 2 ans assumait en tout cas les responsabilités de certaines décisions. C'est lui qui, de façon extrêmement maladroite au début de l'année, a répondu par un fin de non-recevoir à des revendications concernant les prix de gaz qui ont vraiment doublé. C'était pas quelques pourcents de plus, c'était le double. Et qui a répondu que toutes les protestations vont être étouffées de façon très ferme. C'est à ça, au début, qu'a répondu la première ville d'où sont parties les protestations. Et pour rappel, Janaozen, donc c'est la ville où les protestations ont commencé, il y a quelques années, en 2011, a déjà été la scène d'une manifestation qui s'est soldée par des meurtres parce que la police a ouvert le feu sur les manifestants. Il y en avait beaucoup de personnes tuées, on ne sait toujours pas au juste combien. Donc, quand Janaozen de nouveau est parti manifester, il y a d'autres villes qui sont sorties pour le soutenir en mémoire de cette tragédie. Donc, vous voyez, c'est un enchaînement des violations et des réponses fermes et l'absence de dialogue, en fait, qui ont conduit à l'explosion qu'on est en train d'observer actuellement.
Mais comment on le lit, Sacha Koulaïeva, ce Tokayev? Parce qu'effectivement, vous le disiez, la première chose qu'il fait, c'est déboulonner en quelque sorte cet homme fort dictatorial qui a régné sur le pays pendant 28 ans. Donc, on sent bien, effectivement, l'appel d'air. Donc, on se dit, c'est qu'il a compris un certain nombre de choses. Il est en train de les appliquer. D'un autre côté, effectivement, c'est l'homme qu'il a été pendant ces 2 dernières années et qui a aussi participé à la répression. Et c'est aussi celui qui dit « mais les manifestants, ce sont des hooligans, ce sont des groupes armés, probablement pour justifier la violence des forces de l'ordre ». Donc au fond, comment on le lit? Est-ce qu'il y a une espèce de forme de double jeu? Est-ce qu'il est paumé finalement, ce Tokayev? Comment est-ce qu'on peut lire ça?
Effectivement, il y a plusieurs lectures possibles et je pense que c'est uniquement avec le temps qu'on y verra un tout petit peu plus clair. Et un des éléments absolument essentiels de la situation, c'est une chose absolument inédite, l'appel à l'aide à l'organisation de traités de sécurité collectif exprimé par Tokayev. Et là, juste pour les personnes qui peut-être connaissent un tout petit peu moins la situation régionale, c'est un équivalent de l'OTAN de l'Europe de l'Est ou quelque chose qui se le veut l'OTAN de l'Europe de l'Est et qui regroupe l'Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan et surtout et avant tout la Russie.
Bien sûr.
La Russie qui, évidemment, est l'acteur principal de toute cette histoire. Et l'organisation du traité de sécurité collectif a été appelée, par exemple, par Kyrgyzstan en 2010, quand il y avait plus de 1000 morts dans les clashs interethniques au sud de Kyrgyzstan. Il était appelé par Arménie au moment de conflit avec l'Azerbaïdjan. Il n'a jamais répondu présent. Là, avec manifestation certes brutale, mais quand même tout à fait maîtrisable par l'armée locale kazakh. Et après 2 jours d'émeute, tout d'un coup, Tokayev l'appelle et quelques heures après, les premiers avions décollent. Avec de la part de Russie au moins 3000 hommes, officiellement c'est ça les chiffres, mais déjà la Russie commence à dire qu'il y en aura plus. Biélorusse donne 500, Tadjikistan 200, Arménie 70. Donc, par rapport à entre 3 et 5 000 Russes, ça fait déjà tout de suite une différence. Et Kyrgyzstan hésite parce que la population de Kyrgyzstan s'oppose à l'envoi des troupes par Kyrgyzstan dans le pays voisin de Kazakhstan. Donc, vous voyez, la situation est très tendue. Et quel rôle Tokayev joue exactement à la fois dans cette renvoi de Nazarbayev et immédiatement après l'appel de l'Organisation de traité de sécurité collective, donc les troupes russes, sur le sol kazakh, c'est une très bonne question, en sachant que Nazarbayev, malgré sa règne tout à fait totalitaire, autoritaire dans son pays, s'est toujours très fermement opposé à l'influence de la Russie, ou d'en tout cas essayer de le limiter.
Parce que ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que la géographie tout simplement du Kazakhstan fait qu'on a essayé de contrebalancer les pouvoirs des deux très grands voisins, la Chine d'un côté, la Russie de l'autre, qui avait même un regard vers l'Union européenne et même des rapprochements vers la Turquie. Ce que je me demande en vous écoutant, Sacha Koulaïva, c'est est-ce que réellement vous diriez que c'est Tokayev qui appelle le traité de sécurité collective et donc les Russes, ou est-ce que ce sont les Russes qui s'invitent?
C'est une très bonne question qu'on saura plus tard, mais en tout cas, l'appel n'a pas tardé et la réponse à l'appel n'a pas pris plus de quelques heures. Donc, je pense que la coordination de ce qui se passe entre Tokayev et Moscou et les autres est absolument évidente. Et le fait que c'est l'Arménie, donc le président de l'Arménie, Pachinian, qui a officiellement déclaré que l'Organisation du traité de sécurité collective répond présent, est assez anecdotique presque, en sachant que Pachinian lui-même a été ramené par une révolution, on peut le dire, au pouvoir, que donc de toutes les troupes envoyées, l'Arménie envoie 70 personnes.
Mais en quoi ça arrange Vladimir Poutine de se retrouver là? On sait bien, je le disais, que le pays a essayé d'équilibrer un petit peu ses relations récemment. Est-ce que ça veut dire que Moscou va monnayer son aide par une autre forme d'influence? Est-ce que c'est ce qu'il faut craindre? Je vous pose la question parce que vous avez sûrement entendu comme moi Josep Borrell immédiatement, qui est en charge des affaires étrangères pour l'Europe, qui a dit « l'aide militaire extérieure rappelle des situations à éviter ». Et on voit bien ce qu'il veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer que Moscou est en train de mettre dans la balance en ce moment dans le pays?
Je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a ce qu'on peut imaginer et il y a ce qu'on peut craindre. On peut imaginer un peu tout ce qu'on veut en sachant que la Russie actuellement reprend sa présence militaire dans quasiment tous les pays autour de la Russie, justement, dans tout son bloc d'avant et au-delà, comme on le sait avec la Syrie, l'Afrique et d'autres pays où les forces russes maintenant sont stationnées. Donc il y a incontestablement une avancée dans ce sens. Les troupes russes sont déjà en Géorgie, ils sont déjà en Arménie, en Biélorus, en Moldavie, malheureusement en Ukraine. Effectivement, cette avancée vers Kazakhstan inquiète beaucoup tous les voisins parce que c'est une très très grande puissance régionale. Ici, elle bascule également dans ce camp grandissant de présence militaire russe. C'est un changement régional incontestablement très important. On sait que Nazarbayev, comme je l'ai déjà dit, s'y opposer avec un sens diplomatique assez aigu. Et on sait également que quand les Russes troupes s'installent quelque part, c'est un peu compliqué de les faire partir.
Absolument.
Donc, effectivement, on se pose cette question de façon très intense en ce moment. Et c'est pour ça que toutes les organisations internationales et de droits humains appellent au respect de droits international et à limitation des agissements, d'autant plus que les journalistes sont soit limités dans leur action, soit arrêtés, Internet est coupé et les observateurs internationaux ne peuvent pas y accéder parce que le pays est fermé à toutes les forces étrangères actuellement.
Dans cette Asie centrale, Sacha Kloeva, quand le Kazakhstan, dont vous le disiez, qui est le plus grand et aussi le plus riche d'ailleurs, lorsqu'il vacille de son côté, est-ce que les voisins vacillent aussi? Est-ce que c'est d'ailleurs en partie ce qui peut faire peur à Moscou?
Comme j'ai déjà dit, donc le Kyrgyzstan hésite d'envoyer ses troupes là-bas parce que effectivement tout est très interlié dans ces dans cette région, y compris les frontières qui ont été coupées comme beaucoup d'autres frontières dans la région un peu abruptement par Staline. Et du coup, il y a des zones qui se chevauchent et les peuples et les ethnies qui se chevauchent également dans le cadre de ces frontières. La situation en Asie centrale est évidemment très interliée entre les voisins. On a pu voir ça avec Tadjikistan et évidemment avec les changements en Afghanistan, ça les touche également. Donc c'est une région qui est déjà à très haute tension, qui est à la fois très riche en matières premières, mais également très pauvre en matière de population, et avec la plupart des présidents avec des tendances ouvertement très autoritaires, voire totalitaires, comme en Turkménistan. Donc, le rôle de Nazarbayev et de Kazakhstan, qui est un des pays les plus grands de la région et le plus riche de la région, était extrêmement important. Donc, tout basculement géopolitique dans ce sens aura l'impact au niveau régional. C'est tout à fait incontestable.
Qui sont les habitants du Kazakhstan, Sacha Kloeva, justement, au regard de ce que vous venez de nous dire? Est-ce que c'est une population qui est jeune, donc qui n'a pas connu ou à peine la période soviétique? Est-ce que c'est une population qui est plus âgée? Vous disiez qu'elle est effectivement très pauvre, malgré des richesses qui sont importantes. Mais eux, ces habitants et ceux qui manifestent au démarrage, donc ceux contre le prix du gaz, qui sont ces gens?
Il y a bien évidemment un mélange d'un peu de tout, mais ce qu'il faut souligner, c'est que le nord de Kazakhstan, c'est des populations principalement russophones, ce qui est beaucoup utilisé dans son jeu par la diplomatie russe, qui de temps à l'autre envoie des messages qu'il faut se précipiter à l'aide de ces populations russes qui ne demandent que ça. On sait que la même carte a été utilisée en Géorgie, en Ukraine. Au Bélarus, etc. Donc c'est ce monde russe mythique que Poutine se précipite de défendre en oubliant un tout petit peu parfois et même souvent les libertés et les droits humains des populations qui cohabitent avec ces Russes. Donc, en Kazakhstan, il y a le nord du pays qui, depuis toujours, était un tout petit peu la zone à craindre dans ce sens-là, parce que politiquement, il y avait des prises de parole dans ce sens déjà par le gouvernement russe. Il est aussi vrai qu'il y avait des tensions interethniques dans le passé et qui parfois se font sentir d'une façon ou d'une autre. Les régions qui ont commencé les protestations, c'est les régions principalement habitées par les Kazakhs, c'est l'ouest du pays, et c'est toute une autre composition sociale et linguistique. Mais néanmoins, je mettrais vraiment en garde de mettre ce qui se passe actuellement dans le pays sur le dos de ces relations interethniques qui, à mon avis, ne sont pas au centre de problématiques, mais risquent de l'être présentées comme telles.
Et juste une toute dernière chose, parce qu'on n'a déjà plus le temps, Sacha Kloeva, mais du coup, si on élargit la carte, est-ce qu'on se dit que le mouvement social derrière ces manifestations, au fond, ressemble à ce qu'on a pu voir en Ukraine à une période, à ce qu'on a pu voir en Biélorussie très récemment, à ce qu'on a même vu en Arménie il y a aussi 2 ans? Est-ce qu'on peut les mettre dans le même package, si je puis dire?
J'éviterais vraiment de comparer les situations parce que la situation en Ukraine avait tout autre historique et tout autre dynamique. Ouais. En Kazakhstan, actuellement, on a vu les revendications purement économiques qui ont viré dans le purement politique, qui finalement se sont accompagnées par des émeutes. Et c'est ce mélange qui fait la particularité de la situation.
Merci beaucoup, Sacha Kloeva. Vraiment, c'était passionnant. Et puis, on y reviendra sans doute dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
Le 18-20. Fabienne Synthèse. sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde et vous allez entendre, c'est très émouvant, la manière dont on préserve, restaure les manuscrits de Tombouctou qui ont bien failli disparaître au moment du passage des djihadistes. Et la troupe qui vous emmène jusqu'à 19h commence avec Sébastien Logeni, sous les radars.
Au Kenya, une pénurie de frites fait trembler KFC.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est vous, Angélique Bouin. Bonsoir, Angélique.
Bonsoir, je vous propose ce soir le regard des correspondants de la presse européenne sur la présidence tournante française de l'UE et sur Emmanuel Macron.
Le monde d'après, Jean-Marc Faux, bonsoir à vous.
Bonsoir à tous. Un an après les événements du Capitole, le parti républicain américain est devenu plus trumpiste que Trump lui-même.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par l'île de Wight, au large de l'Angleterre. C'est Wet Leg et Wet Dream sur France Inter. Le bruit du monde ce soir est au Mali avec en main des morceaux d'histoire qui ont survécu au temps, à la sécheresse, au voyage, aux insectes, aux djihadistes même partiellement. Mais de quoi parle-t-on ? Eh bien des manuscrits centenaires de cette cité du savoir qu'est Tombouctou. Un héritage inestimable dont plus de 4000 exemplaires ont été brûlés en 2012 par les djihadistes. Le reste est sauvé. Nous parlons de plus de 10 000 manuscrits. Aujourd'hui, la ville qui est sous protection de l'ONU veut rendre tout son éclat à ce patrimoine. Les manuscrits désormais font l'objet d'un programme de restauration, de classification. Et le reste, c'est Manon Laplace qui raconte.
Alors que résonne l'appel à la prière, le soleil entame sa descente sur la mythique Tombouctou. Et la mosquée Sankoré, vestige de terre crue du XIVe siècle, diffuse un son métallique à travers les ruelles sableuses. Flanqué à l'édifice religieux, l'institut Ahmed Baba recèle bien des trésors.
Ici, c'est juste un échantillon des manuscrits rescapés.
Des ouvrages centenaires qui sont la mémoire de Tombouctou. Le docteur Mohamed Diagayeté est le directeur général de l'établissement.
Vous savez, au moins, on disait auparavant que l'Afrique n'avait pas l'histoire écrite. Son histoire est orale. Donc ces manuscrits démentent catégoriquement cette thèse. Pour mieux comprendre notre histoire, il faut se ressourcer à partir de ces manuscrits, qui bien sûr non seulement traitent de l'histoire, de la littérature, en sciences religieuses aussi.
Vous voyez, d'accord.
Pourtant, ce patrimoine inestimable, faute d'avoir jusqu'ici fait l'objet d'une réelle politique de conservation, n'échappe pas aux effets de l'usure et du temps.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire là ?
On est en train de faire le dépoussiérage. Ça, c'est le premier travail pour la conservation.
Monsieur El Ramis, responsable du laboratoire de conservation, scrute d'un œil attentif chaque geste. Pinceau dans une main et lichette de bois dans l'autre, les étudiants de la deuxième promotion des métiers du livre et des manuscrits anciens dépoussièrent les feuilles une à une. L'opération est sensible.
Il faut prendre les manuscrits comme on prend un petit bébé de nouveau naissance. Parce que tant que le manuscrit est manipulé, il est libre comme ça, il faut faire beaucoup attention. Si ça ne passe pas, ça va se casser, ça va se dégrader. Et ce qui se casse, si ça se perd, c'est fini, c'est perdu à jamais.
Fadimata Maïga, étudiante penchée au-dessus d'une encre vieille de plus de 4 siècles, s'applique.
On nettoie les manuscrits avant de les conserver dans une boîte. On les nettoie avec des brosses parce que les manuscrits sont très fragiles. Après ça, on les met dans les boîtes pour les conserver, voilà, pour les sauvegarder contre les poussières et les insectes.
Dans la cité des 333 saints, personne n'a oublié l'occupation djihadiste. Le directeur de l'Institut Ahmed Baba se souvient des manuscrits réduits en cendres.
Ça, c'est le centre de ces manuscrits brûlés.
Mais aussi de ceux qui ont été sauvés.
Effectivement, en 2012, quand même, il y a eu ce que moi j'appelle des miracles. Ceux qui ont sauvé le manuscrit, c'est des personnes à saluer et à féliciter. Parce que si on les prenait, on les allait considérer comme des voleurs. Le minimum de choses qu'on pouvait faire contre eux, c'est peut-être couper leurs mains.
Reste aujourd'hui l'essentiel du travail de préservation, nettoyer, restaurer, répertorier et numériser les manuscrits. Pour cela, la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a débloqué plus de 350 000 euros. Maria Luisa Rousseau, de l'Université de Hambourg, pilote le programme de formation depuis 2015.
La sauvegarde des manuscrits requiert beaucoup d'activités qui concernent à la fois la conservation physique et la conservation de l'aspect textuel des manuscrits. En ce qui concerne l'étude des manuscrits, on a la réalisation de répertoires et catalogues qui permet d'identifier le contenu des manuscrits.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra.
Une fois numérisés, les écrits, principalement en langue arabe, offriront leur contenu aux chercheurs du monde entier.
Les textes dont les manuscrits portent témoignage offrent plusieurs opportunités de recherche à des chercheurs de différentes disciplines, non seulement dans le domaine de la littérature, de l'histoire, bien sûr, et aussi dans d'autres disciplines telles que les sciences, la mathématique, l'astronomie, la médecine.
Autant de disciplines qui s'enseignaient à Tombouctou à l'époque médiévale, la ville était alors un carrefour de savoir. Mouhamadou Maïga, tombouxien, est professeur à l'Institut Ahmed Baba.
Les manuscrits font partie intégrante de la culture de Tombouctou. On retrouve l'histoire des savants qui sont passés par Tombouctou, l'histoire des saints. Et Tombouctou est appelée aussi la ville mystérieuse. Donc une partie du mystère de cette ville se trouve dans ces manuscrits.
De ces mystères, tout reste encore à découvrir. Au Mali, un nombre inquantifiable de manuscrits anciens reposent encore dans les bibliothèques familiales, à l'abri des regards.
Fascinant, vraiment. Merci beaucoup, Manon Laplace. Depuis Tombouctou, le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeni. Nous sommes au Kenya, Sébastien, où KFC, le fast-food Kentucky Fried Chicken, est menacé de boycott.
Oui, et l'origine de ce vent de colère qui souffle contre le roi américain du poulet frit peut paraître au départ assez prosaïque. Il s'agit d'une simple pénurie de frites. Les KFC de Nairobi sont en effet en rupture de stock de patates, victimes des perturbations du transport maritime mondial à cause de la crise sanitaire. Un navire chargé de pommes de terre arrivera bien cette semaine au Kenya. Tous les clients de KFC devraient donc être rassurés. Sauf qu'à cette occasion, les Kenyans ont découvert avec surprise qu'aucune patate de KFC n'était commandée aux agriculteurs locaux qui pourtant en cultivent 60 variétés différentes et qui croulent en ce moment sous les stocks d'invendus. Une découverte qui a déclenché une véritable tempête sur Internet. Cet internaute kenyan, on l'entend, appelle carrément au boycott donc de KFC. Le hashtag @boycottKFC post prospère sur Twitter. Et ce qui agace tout particulièrement les Kenyans, c'est la réponse de la chaîne américaine face à cette polémique. Tous les fournisseurs de KFC doivent en fait passer par un processus mondial garantissant la qualité de leurs produits, processus qu'il n'est pas possible de contourner même en cas de pénurie. Devant cette vague de mécontentement viral, KFC a fait machine arrière et déclaré se lancer dans l'achat de pommes de terre produites localement, comme la chaîne le fait déjà, dit-elle, pour le poulet.
Eh bien bravo, direction l'Écosse qui s'apprête à gracier 3000 sorcières.
C'était il y a 3 siècles, Fabienne. Elles étaient soupçonnées de gâcher les récoltes, de changer les hommes en hibou ou d'avoir le diable dans la peau. Des milliers de femmes accusées de sorcellerie, exécutées dans d'atroces conditions, étranglées, brûlées vives. Les historiens parlent de 50 000 à 100 000 femmes condamnées à mort à cette époque dans toute l'Europe. Et c'est en Écosse que cette chasse aux sorcières a été la plus féroce, 4 à 5 fois plus de procès qu'ailleurs. Et contrairement à d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, qui ont proclamé il y a 20 ans l'innocence des célèbres sorcières de Salem, toujours rien en Écosse, au point qu'il y a 2 ans, une association, les sorcières d'Écosse, s'est mise en tête de demander à l'État de gracier les sorcières écossaises. On entend là l'une des membres de cette association Witches of Scotland qui réclame des excuses officielles au gouvernement écossais et la création d'un monument national, une stèle, un mémorial en l'honneur de ces femmes injustement, dit-elle, accusées. Leur campagne a été entendue à cette association, notamment par la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, qui soutient l'initiative, si bien qu'un projet de loi sera bientôt voté cette année pour gracier 3000 sorcières, donc une loi qui pourrait servir à mettre la pression sur d'autres pays dans le monde où le crime de sorcellerie existe toujours, comme au Nigeria, en Tanzanie, en Inde ou encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Allez, on termine en Espagne avec une maison de retraite pour les personnes âgées LGBT.
Cette maison de retraite destinée aux seniors gays, lesbiennes, bi ou trans vient d'ouvrir à Madrid un projet de loi que l'on doit à une association, la Fondation du 26 décembre, qui depuis des années vient en aide aux personnes de cette communauté en situation d'isolement ou de marginalisation. Or, les personnes âgées LGBT sont tout particulièrement menacées par la précarité. Elles ont peu ou pas travaillé dans leur vie. 2/3 des seniors LGBT espagnols vivent ainsi dans la pauvreté avec l'équivalent du minimum vieillesse. Il faut dire que l'Espagne a connu la dictature franquiste pendant 40 ans où l'homosexualité était poursuivie pénalement. Puis ensuite, il y a eu le sida dans les années 80 et la peur des entreprises espagnoles d'embaucher des homosexuels ou des transsexuels. Cet homme aujourd'hui en maison de retraite raconte qu'il est séropositif. Dans son cas, le sida ne lui a pas coûté la vie. Je suis toujours là, dit-il, mais il m'a pris mon travail, il m'a pris mon compagnon et c'est quelque chose dont on ne pourra pas parler, dont on ne pouvait pas parler car nous étions de vrais pestiférés. L'Espagne n'est pas le premier pays à ouvrir ses maisons de retraite dites de la diversité. Ces structures existent déjà à Berlin, en Allemagne, tout comme aux États-Unis, au Canada ou en Suisse.
Et merci beaucoup, Sébastien. Sous les radars, c'est tous les soirs. Dans Un jour dans le monde, je vous laisse partir avec les Staple Singers. I'll take you there sur France Inter. Oh, oh. I know a place. Ain't nobody crying. Ain't nobody worried. No. Ain't no smiling faces. Mm-mm. No, no. To the races.
Staple Singers, I'll Take You There sur France Inter. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, comme chaque jeudi, c'est Angélique Boin qui nous attend.
France Inter.
Je suis venu vous parler de
l'European Union. Général.
Un jour dans le monde.
Angélique, en direct, non pas de Bruxelles, mais du 15e arrondissement de Paris. Angélique, s'il y avait une fenêtre dans le studio, je pense que je vous verrais de loin. Qu'est-ce que vous faites donc dans le 15e ?
Eh bien, chaque fois qu'un pays prend la présidence du Conseil de l'UE, il invite, Fabienne, l'ensemble des commissaires européens, les 27, donc, un par pays dont la présidente, pour un séminaire de travail de 2 jours dans sa capitale. Ça marque en fait symboliquement le début des travaux et donc une partie des journalistes accrédités permanents auprès des institutions sont également conviés, dont moi. Alors, les commissaires viennent en fait rencontrer les ministres français avec qui ils vont négocier les textes législatifs européens qui sont sur la table des prochains mois. Le président français, lui, aura un entretien bilatérale avec leur présidente, Ursula von der Leyen. Ce sera demain, après une cérémonie de recueillement très symbolique, là aussi, au Panthéon, où reposent Jean Monnet et Simone Veil.
Alors, pour ce qui est des journalistes, justement, Angélique, vous êtes reçue au ministère de l'Europe pour un séminaire, là aussi, tout ce qu'il y a de plus sérieux, avec certains ministres français.
Oui, alors il y avait quand même un petit côté colonie de vacances ce matin, très tôt à la gare du midi. Je résiste pas à vous faire entendre un peu d'ambiance de gare. Nous sommes en fait 70 journalistes ici à Paris qui représentons les plus gros médias d'Europe. Et c'était donc tentant, Fabienne, d'en profiter pour interroger mes collègues sur cette présidence française. Il y a de très grandes attentes chez nos partenaires européens, mais des attentes doublées bien souvent, vous allez l'entendre, d'un peu de stupéfaction face aux polémiques politiques, comme celle sur le drapeau européen du 1er janvier. Je vous propose d'écouter Maria Oudrescu, elle travaille pour le quotidien belge La Libre.
Depuis la Belgique, on sent qu'il y a une sorte d'hystérie dans le débat français vis-à-vis de l'Union européenne et de beaucoup de sujets en général. Donc en même temps, on se dit c'est super, c'est la France, elle a la capacité, disons la réputation qui lui permettrait en fait de faire avancer le débat européen sur des sujets assez majeurs. Je citais le budget, le climat, la transition numérique et même l'Europe géopolitique qu'on attend toujours de voir et que la France veut voir depuis très très longtemps. Et en même temps, le moindre petit détail, la moindre petite phrase peut provoquer un débat incroyable au niveau en termes de politique interne.
Alors, même sentiment chez son confrère suisse, Stéphane Israël, du quotidien Le Tages Anzeiger. Pour lui, Emmanuel Macron est un phare pour l'Europe. Il a, dit-il, de la chance, car les planètes sont assez alignées en ce moment avec l'Allemagne pour faire avancer justement la construction européenne. Mais il y a des dérapages qui tout de même l'interpellent.
Il n'y a pas énormément d'Européens convaincus en Europe. Et Macron, c'est peut-être un peu le phare, on dit, je pense, oui. Dans ce débat, c'est lui qui a lancé le débat au niveau européen. À l'époque, à Berlin, ils n'étaient pas prêts. Maintenant, à Berlin, on a un gouvernement plutôt pro-européen et aussi assez francophile, je pense. Mais si on regarde le débat en France, parfois, on est un peu surpris avec cette germanophobie et europhobie aussi. Quand j'ai vu le débat sur le drapeau, par exemple, c'est un peu le monde à l'envers, oui.
Alors, et Angélique, des attentes aussi sur l'élection présidentielle?
Ah oui, clairement, quand je discute avec mes confrères de la presse européenne, beaucoup estiment que le principal enjeu des prochains mois, c'est tout de même ce scrutin. Je vous propose d'écouter Diego Velasquez du quotidien luxembourgeois Luxemburger Wort.
C'est de ça que dépend le futur de l'Europe, beaucoup plus que d'une présidence tournante ou même des élections pour le Parlement européen. Et donc que ce soit maintenant Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Pécresse, c'est ça qui aura une influence sur le futur de l'Europe et pas ce qui se négociera forcément dans les 6 mois qui viennent. Parce que si ça se négocie pas dans les 6 mois qui viennent, ça se négociera dans les 6 mois qui suivent. Enfin là, quand on est sur un agenda assez prédéfini, la France n'a pas de grand rôle à jouer.
Voilà, on verra tout cela sur pièce, Fabienne, dans les prochains mois.
Allez, sortez de la bulle, Angélique, justement, et venez nous voir. On n'est pas très loin, nous, du 15e. Passez le pont, vous allez voir. Allez, à bientôt.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'était donc il y a un an l'assaut des partisans de Trump contre le Capitole à Washington pour empêcher la validation de la victoire de Biden. Un an après, Joe Biden, cet après-midi, a une nouvelle fois dénoncé les mensonges de Donald Trump. On y reviendra évidemment dans le journal dans un instant. Ce qui vous frappe un an après, c'est que le parti républicain, celui de l'ancien président, est devenu encore plus trumpiste que Trump, et c'est votre monde d'après.
Ceux qui voyaient en Trump une parenthèse de l'histoire en sont pour leurs frais. En fait, si la politique était rationnelle, Trump appartiendrait au passé. Non seulement il a perdu, mais il a couvert, voire encouragé une ébauche de coup d'État en démocratie, ça devrait suffire à l'enterrer. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Le trumpisme est plus alerte que jamais. En 12 mois, en effet, le parti républicain s'est trumpisé, pardonnez-moi le néologisme, à vitesse accéléré. Première évolution marquante, il a mis la barre à droite, très à droite, portée par une nouvelle génération d'élus, citons Ron DeSantis de Floride, Josh Hawley du Missouri, Christine Noem du Dakota. Ils ont même dépassé sur sa droite l'ancien patron de l'aile dure du parti, Ted Cruz. Tous défendent un corpus idéologique ultra-conservateur. Contre l'avortement, près de 24 États ont adopté ou préparent des lois limitant strictement l'IVG et espèrent que la Cour suprême, avant l'été, abolisse le célèbre arrêt Roe contre Wade qui autorise l'avortement aux États-Unis. Contre l'immigration et même contre les immigrants déjà présents aux États-Unis, on est proche de théories racistes sur la pureté ethnique, pour le port d'armes évidemment et pour les théories souvent obscurantistes des églises évangéliques. On est très loin du conservatisme à la Ronald Reagan par exemple, on est plus proche des théories de l'extrême droite européenne à la Zemmour sur le prétendu sauvetage de la civilisation occidentale.
Et puis il y a cette adhésion massive aux mensonges de Trump.
Oui, c'est ça le problème central. Les positionnements idéologiques c'est une chose, saper les fondements de la démocratie c'est autre chose. Or, un an après l'assaut contre le Capitole, non seulement le Parti républicain n'a pas rejeté les vérités alternatives de Trump, mais il les a faites siennes, comme s'il préparait le démantèlement de l'État de droit. Alors c'est d'abord la légitimation de la violence. Plus d'un électeur républicain sur deux, un sur deux, estime que la violence contre le gouvernement peut être justifiée. Les gouverneurs du Texas et de l'Oklahoma mettent en place des unités militaires qui leur sont directement rattachées. Et les milices d'extrême droite, comme les Proud Boys, ont toujours pignon sur rue. C'est ensuite le soutien apporté aux affirmations sans preuve de Trump sur l'élection volée. Résultat, seulement un quart des électeurs républicains considèrent Biden comme légitimement élu. Un quart, c'est vertigineux. Et puis surtout, il y a toute cette entreprise en cours pour détricoter le droit de vote et les instances de supervision électorale. Plus de 19 États à majorité républicaine cherchent à limiter l'accès aux urnes pour les minorités latino et afro-américaines favorable aux démocrates. Et plusieurs de ces États cherchent à modifier le processus de certification des résultats. Ils ne relèveraient plus de fonctionnaires assermentés, mais d'élus partisans libres de proclamer le résultat qui leur convient. C'est vraiment la mise en œuvre concrète de ce que Trump n'a pas réussi à faire il y a un an pile, le tripatouillage électoral qui en fait signe les dictatures.
Et alors justement, Trump lui dans tout ça?
Alors bonne question. À première vue, évidemment, c'est tout bénef. Il semble tenir le Parti républicain à sa botte, il l'a converti à ses lubies, il est toujours perçu comme le messie par son électorat et il s'apprête à lancer son propre réseau social qu'il a baptisé Truth, la vérité. Mais la réalité est plus complexe. Le Trumpisme est peut-être en train de dépasser Trump, un peu comme Frankenstein et Chapeau, savant fou qui l'a créé. D'une part, le parti est donc en train de se doter, je le disais, d'un corpus idéologique plus articulé, plus précis que celui de Trump, dont le slogan finalement s'est toujours limité à « le programme c'est moi, qui même me suivent ». D'autre part, Donald Trump aura 78 ans, c'est quand même beaucoup pour la prochaine présidentielle en 2024, et il a plusieurs enquêtes judiciaires et parlementaires au basque, notamment l'enquête sur l'assaut contre le Capitole. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'après les élections de mi-mandat à l'automne prochain, la nouvelle génération du parti peut être tentée de se débarrasser de la figure tutélaire de Trump, tout compte fait assez encombrante. D'autant qu'on peut le prendre par tous les bouts, je le répète, Trump a perdu. Alors après un an au pouvoir, c'est peut-être finalement ça le grand échec de Biden. Pas l'inflation, pas la difficulté à enrayer la pandémie, pas le retrait chaotique d'Afghanistan, non. Plutôt l'incapacité à réconcilier le pays et à empêcher que le Trumpisme ne survive à Trump, avec le risque que ça comporte pour la démocratie.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Merci beaucoup Jean-Marc. On reste ensemble évidemment comme chaque soir. La suite c'est le journal d'Hélène Philly. Et puis le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous sur France Inter.